espace livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Philippe Carrez, vous publiez aux éditions Plon un roman époustouflant. Il s'intitule Enclave et je dirais qu'on pourrait l'enclaver dans les bonnes bibliothèques entre des auteurs comme George Orwell pour 1984, Julien Gracq pour Le rivage des Sirtes, Roald Dahl pour tous les livres qu'il a écrits, mais entre autres Le Seigneur des Mouches. Et Sartre et Camus, qui ne sont pas loin non plus de ce roman, qui est un roman huis clos. Alors en deux mots, l'enclave, c'est un camp de travail en Slovaquie que les gardiens allemands quittent en l'isolant du reste du monde. Nous sommes en 1945 et une société devrait réapprendre la liberté en étant enfermée sans ses gardiens. Mais un homme va se dire « je vais réorganiser une république à l'intérieur de ce huis clos ». Alors comment vous est venue la construction de cette histoire ?
Ben, en fait, quand j'écris un roman, l'idée du roman, ce n'est pas une idée. C'est toujours plusieurs sources, plusieurs événements, plusieurs... Là, il se trouve que je suis réalisateur aussi, hein, donc je suis réalisateur de télévision, de cinéma. Et il se trouve que les deux derniers téléfilms que j'ai réalisés pour la télévision française sont des films qui se passent pendant la guerre de 40. Et ce sont des films dont j'ai fait la mise en scène et dont j'ai écrit le scénario. Et il se trouve que donc j'ai eu à étudier cette époque de notre histoire contemporaine et que j'ai découvert en travaillant sur ces scénarios, en fait, une époque que je connaissais un petit peu, mais dans laquelle j'ai découvert des faits, des comportements. En fait, j'ai découvert une époque où l'homme s'est vraiment révélé, et en plus, c'est une période où vraiment la civilisation bascule, c'est-à-dire qu'il y a vraiment avant la Seconde Guerre mondiale et après. Et moi, il y a quand même un sujet qui est un sujet sur lequel j'ai déjà écrit pas mal de romans, même si c'était des polars avant, qui est le pouvoir, la prise de pouvoir et l'abus de pouvoir. Moi, c'est quelque chose qui me fascine assez, qui me révolte aussi. L'abus de pouvoir, c'est quelque chose que je ne supporte pas, de même que je ne supporte pas l'injustice et que je ne supporte pas le mépris. C'est vraiment trois moteurs pour moi de réaction qui font que je peux me mettre à raconter une histoire. Et donc, à partir de ce background historique qu'est la guerre de 40, je me suis dit, est-ce que je pourrais arriver à raconter comment une société se fabrique et comment, justement, quelqu'un prend le pouvoir et pourquoi est-ce qu'il prend le pouvoir et comment il en use. C'était un peu la base. Alors, il se trouve que, en faisant la préparation de ces téléfilms, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu Capoute de Malaparte, qui est quelque chose qui, pour moi, est un vrai choc, un truc extraordinaire, qui, en plus, raconte des événements et une partie de cette guerre qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le front de l'Est, c'est quelque chose que nous, sur laquelle on n'a jamais eu beaucoup d'informations non plus, mais qui a été un peu occulté par rapport à tout le reste. J'ai lu « Si c'était un homme » de Primo Levi, qui est aussi... Alors, que j'ai lu en plus avec un espèce de... C'est fou, parce que je l'ai lu avec un espèce de détachement qui m'a étonné. C'est-à-dire que j'avais presque le même détachement mécanique de ce que le Primo Levi a quand il écrit le livre. C'est-à-dire que les hommes sont comme ça, ils font ça.
Ce qui est peut-être la seule manière d'écrire, d'ailleurs.
Exactement, c'est peut-être la seule manière d'écrire. Et donc, quand j'ai refermé « Si c'était un homme », je me suis dit « Oui, alors, eux, ils ont été libérés. » Bon, même si on sait comment ça s'est passé quand ils sont libérés. Parce qu'en fait, en préparant mes films, j'avais eu aussi des récits de libération de camps où, effectivement, le premier jour de libération, c'était une espèce d'euphorie, parce que... Enfin, même pas, d'ailleurs, parce que le type était tellement dans un tel état que c'était pas possible. Mais où, après, j'ai eu des récits sur le fait que l'armée américaine, par exemple, a dû tirer sur des prisonniers de camps qu'ils venaient libérer, parce qu'en fait, il y avait des révoltes de la faim. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient obligés de tirer sur les mecs qui venaient de libérer, parce que sinon ils s'en sortaient pas. C'est une espèce de cauchemar total, mais c'est un cauchemar total. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui aurait pu se passer si, par exemple, un camp de concentration, alors pas forcément un camp d'extermination, parce que c'est aussi ça. Je pense que peut-être une des forces de mon roman Enclave, c'est que c'est pas un camp d'extermination, sur lequel il y a eu beaucoup de choses écrites jusqu'à présent.
C'est un camp de travail.
C'est un camp de travail. C'est-à-dire que c'est un camp où les gens sont dans des conditions de vie absolument épouvantables, mais ils survivent.
C'est aussi un camp qui est un de ces camps du Lebensborn, c'est-à-dire une espèce d'endroit où l'idéologie nazie essaye de créer, de mettre sur pied cette race aryenne en enfermant des femmes et en les fécondant, on ne peut pas dire autrement, pour créer la nouvelle race aryenne.
En inséminant des femmes qui sont blondes aux yeux bleus et qui correspondent totalement aux critères, ce qui est aussi un truc effrayant. Et donc je me suis dit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passerait si en fait les Alliés arrivent d'un côté et les Soviétiques de l'autre? Ben, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un camp, il l'oublie. En fait, l'idée de base du bouquin, c'est ça. C'est essayons d'imaginer un camp de concentration qui n'a pas été libéré. Et comment est-ce qu'il serait organisé à l'intérieur? Donc j'ai pris une carte, j'ai regardé les fronts, les Alliés, où ils sont allés, les Soviétiques. Et en fait, j'ai découvert la Slovaquie. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, elle n'était pas du tout de décrire un truc qui se passe en Slovaquie, qui est un petit État, qui a eu son indépendance pendant 6 ans. Tout ça, je ne savais pas. Mais par contre, géographiquement, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais raconter. Et il se trouve qu'il y avait des zones de montagne, parce que pour moi, l'histoire se passait en montagne, parce qu'il fallait que les mecs soient isolés pendant... c'était l'hiver, c'est en janvier 45. Il se trouve en plus que l'État Thrace, où je situe l'histoire d'enclave, sont à, je crois, 60 ou 80 kilomètres au sud d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une proximité, une espèce de concentré d'histoire, là, qui, par rapport à ce que moi, j'avais envie de raconter, était vraiment intéressant. Alors, pour moi, enclave, c'est pas un roman historique. C'est-à-dire que Medved est une histoire, c'est une fiction, c'est totalement imaginé.
Medved, c'est le nom du camp.
Voilà.
Le
camp de Medved, en fait, n'a jamais existé. Il y avait des camps de travail en Slovaquie, chose que j'ai appris en étudiant, en m'informant justement sur cette période. Il y avait effectivement 4 ou 5 camps de travail qui étaient des camps de travail où la Slovaquie mettait ses dissidents communistes parce que, bon, la Slovaquie était un État dirigé par un ancien ecclésiastique complètement inféodé à Hitler. Bon.
Oui, on apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur l'histoire, parce que votre roman, qui est un vrai roman, qui n'est pas un roman historique, on peut dire, mais c'est un roman qui ancre la fiction dans une réalité qui est tout à fait plausible. Et là, on retrouve peut-être Malaparte aussi, où on ne savait jamais dans ces délires lyriques si ce qu'il racontait était vrai, parce que ça cessait d'être plausible. Et il y a ce mélange du vrai et du faux. Ici, la fiction est une fiction à l'intérieur d'un environnement historique.
Voilà. Et pour moi, c'était important que le cadre sur lequel j'allais appuyer mon histoire soit un cadre crédible. Et donc, soit un cadre où les événements et les idéologies se révèlent et où on voit ce que, justement, des idéologies comme celle-là peuvent arriver à faire. D'ailleurs, dans Enclave, il y a deux ou trois passages qui, pour moi, sont vraiment importants, du genre, à un moment donné, par exemple, il y a... Deux juifs qui sont arrivés à s'échapper d'Auschwitz et qui arrivent dans un état absolument lamentable devant ce camp. Et en fait, je pense que c'est peut-être plus fort de raconter ça comme je l'ai raconté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mecs qui sont deux épaves et en plus, ils sont rejetés parce qu'ils sont juifs. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire recommence.
Le racisme dans cette micro-société existe, les abus de pouvoir existent, mais aussi, je pense que ce que vous examinez aussi, c'est la faculté de soumission à l'autorité, même si elle est abusive. Parce que finalement, toute cette société de la République de Medved se soumet à la loi du celui qui se promulgue le plus fort.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se soumettent à la loi de celui qui est le plus intelligent. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que dans une société, de toute façon, dans un bateau, il y a un capitaine. Il peut pas y avoir deux capitaines, il y a un capitaine. Après, l'intelligence du capitaine, elle est de mener son bateau là où on lui dit d'aller. Alors après, où il va, là où il veut, et c'est une dictature. Où il va, là où les passagers lui demandent d'aller, et c'est une relative démocratie, on va dire. Pour moi, ce qui est important dans Enclave, c'était de raconter justement comment, à un moment donné, un personnage prend le pouvoir sur les autres. Alors, simplement, au début de l'histoire, si personne ne prend le pouvoir pour eux, ils sont foutus. C'est-à-dire que c'est essentiel que quelqu'un prenne le commandement de cette micro-société, parce que sinon, ils sont perdus.
Ils ne parviennent pas à admettre qu'ils sont libres. Et donc, ils attendent que l'ordre leur soit donné de faire quelque chose.
C'est ça. Et ça, c'est un truc qui est très humain. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est que justement, aujourd'hui, on est dans une espèce de théâtralisation des événements qui fait qu'il y a les gentils et les méchants. Donc, il y a des héros qui sont des héros tout de suite, il y a des méchants qui sont très méchants. Pour moi, quelque part, ce personnage de Danxo, donc, qui est la personne qui prend le pouvoir et qui après va en abuser... Non seulement c'est pas un vrai méchant, c'est quelqu'un qui est là au moment où il faut, et heureusement qu'il est là. C'est quelqu'un qui est suffisamment charismatique pour mener les autres, c'est quelqu'un sur lequel on peut avoir de l'admiration. C'est d'ailleurs aussi pour ça, par exemple, que le narrateur de mon histoire, le gamin, j'ai pris un gamin qui a 12-13 ans, parce que j'avais envie d'avoir, sur ce qui se passait dans ce camp, une vision très naïve. C'est-à-dire que j'ai un gamin qui a 13 ans, qui n'a vécu sa vie que dans ce camp, donc qui l'a depuis qu'il a l'âge de 7 ans. Et donc les seules références qu'il a d'une organisation de société, c'est ce qu'il a vu quand les Allemands étaient là.
Ce que j'ai trouvé qui était surprenant et qui peut-être est une des clés de la fascination qu'exerce votre roman sur le lecteur cette fois-ci, c'est le fait d'avoir choisi ce narrateur. Comme si le romancier avait besoin, un narrateur qui a 13 ans, qui est un jeune adolescent, comme si le romancier avait besoin, pour raconter cette histoire, d'avoir une certaine forme de candeur pour raconter objectivement ce qui se passe.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il fallait que la personne qui allait raconter ça soit dans un total premier degré. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui se passe ? Les Allemands sont bons, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? Dangso veut aller visiter le palais parce que c'est là où... C'est une vision totalement au premier degré. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, ça permet aussi de démontrer les mécanismes sans malice. Quoi. C'est-à-dire que, à la limite, un personnage plus adulte aurait pu analyser à quel moment Dangso bascule dans sa prise de pouvoir. Là, non. Là, ils sont tous dans un processus de survie. Et l'idée pour moi, c'était d'aller d'une part jusqu'au bout de ce processus de reprise de pouvoir, et après montrer comment ça bascule, mais comment ça bascule de manière... c'est pas immédiat, c'est-à-dire que Dangso, en fait, c'est bien ce qu'il dit, il dit « notre plus grand ennemi, c'est le doute », c'est-à-dire que même lui, d'entrée, doute, sauf que, en fait, pour moi, à partir du moment où ils savent qu'ils sont définitivement coincés dans ce coin de pays, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... les ponts qui permettent d'accéder au reste de la civilisation s'écroulent. Dangso sait que maintenant c'est son jouet à lui et qu'il va pouvoir en faire quelque chose.
Et Dangso utilise aussi le mensonge puisqu'il fait croire à tout le monde que la guerre n'est pas encore terminée et donc il enferme tout le monde dans un mensonge. Lui-même ment à tout le monde puisque finalement c'est un être rustre. Tout ce qu'il connaît, tout ce qui l'inspire au début, c'est ce que le docteur Matthäus, un médecin dans le camp, lui souffle comme indication. Au départ, j'ai le sentiment que c'était des indications destinées à réorganiser le camp par Matthäus. Petit à petit, Dangso prend vraiment le pouvoir en omettant ce qu'il y a de positif dans le message de Matthäus.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il est à partir du moment où il s'aperçoit que c'est finalement... En fait, Dangso, c'est quelqu'un qui est un ouvrier qui, en fait, a fait croire qu'il était cuisinier. Pour moi, il y a aussi un passage qui est vraiment intéressant. C'est le moment où, justement, le docteur Matthäus dit « Mais tu vas pouvoir reprendre ta liberté, tu vas pouvoir retrouver le travail que tu avais avant, ta vie d'avant. » Et le problème, c'est que sa vie d'avant, c'était rien. Le problème, c'est que sa vie d'avant, il faisait la vaisselle dans une usine pourrie. Et donc, du coup, ce mec n'a pas envie du tout de retourner à cette espèce de banalité de la vie et d'inconfort. Il est le chef d'une communauté, alors qu'il n'aurait jamais pu l'être. Donc, il va tout faire pour le rester. Et l'autre chose qui m'intéressait aussi... Et ça, c'est quelque chose que je raconte, mais je ne vais peut-être pas raconter non plus la fin du bouquin.
Non, c'est pour ça. Je ne racontais pas l'épisode du métier, du secret de Dangso, parce qu'alors on dévoile, ce sont des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a un élément sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que pour moi, c'est aussi une métaphore, et la force du roman, du romanais, c'est aussi la métaphore. Le jeune homme, le narrateur, écrit. Parce que sa maman lui a demandé, sa mère lui a demandé, écris, c'est important que tu racontes. Et là, on a un peu l'impression que c'est aussi là le romancier qui dit, je dois pouvoir témoigner de ce qui s'est passé, quitte à utiliser la fiction pour le raconter.
Alors, ce qui se passe dans ce roman, en fait, pour moi, il y a deux personnages forts, qui sont la mère du narrateur, Anja, et Dangso. D'ailleurs, c'est pas un mystère si... immédiatement, ils se mettent ensemble. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a un soupçon de liberté sexuelle dans cet endroit où, en fait, les hommes étaient parqués ensemble et les femmes étaient dans une espèce de prison avec les fenêtres fermées, parce qu'en fait, elles n'étaient là que pour la procréation de la race aryenne. Il y a deux personnages qui sont des personnages qui sont, ouais, peut-être plus intelligents, plus avertis que les autres. Il y a la mère et il y a Dangso. Dangso est un personnage rustre, qui ne sait pas, qui sait à peine lire, très peu. Par contre, Anja a de l'éducation. Et donc, en fait, quelque part, c'est elle qui incite son fils, c'est elle qui lui a appris à écrire, c'est elle qui lui a appris à lire, c'est elle qui lui a appris à la fois l'allemand, le slovaque, et en fait, pour elle, elle a quelque chose qui est très maternel, qui est de l'ordre de la survie. Et la survie, pour elle, passe par l'éducation. Et donc, quelque part, la métaphore, elle est là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez survivre, si vous voulez vous en sortir, apprenez et poursuivez ça, quoi.
Alors, il y a aussi un élément qui est qui est très prenant dans votre roman, c'est la manière dont vous l'écrivez. Vous avez dit que vous êtes réalisateur de cinéma et réalisateur de télévision. Le roman est écrit avec une imagerie et une visibilité, mais qui ne procède pas du lyrisme de l'écriture, qui procède au contraire de la simplicité de l'écriture. Tout est dans le concret, tout est dans le vécu, dans le ressenti. C'est l'écriture de scénario qui vous donne cette approche romanesque?
Je sais pas. En fait, je suis pas littéraire de formation du tout. J'ai lu assez peu de choses. Je suis pas un grand lecteur. Par contre, effectivement, ça fait 30 ans que je suis réalisateur. Et en fait, quand j'écris un roman, alors déjà quand j'écris un roman, c'est pas du tout un scénario en devenir. C'est-à-dire que pour moi, ce sont vraiment deux outils, deux univers, deux écritures totalement différentes qui ont chacune leurs règles et chacune surtout leur public. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais un film, je sais que le spectateur va voir le film avec mon rythme à moi, parce que c'est moi qui fais le montage, et que c'est moi qui vais lui imposer mon rythme de narration et ce que je vais lui raconter. Ce qui est formidable avec la littérature, c'est que là, c'est le lecteur qui s'empare de l'objet qu'il va lire au rythme qu'il veut. S'il veut lire le bouquin en 2 mois, il le lit en 2 mois. S'il veut le lire en 2 heures, il le lit en 2 heures. Et c'est lui qui se fait ses images. Pour moi, ce sont vraiment... Quand je me mets à écrire un roman, j'écris un roman. J'écris pas un truc qui pourrait devenir un scénario ou quelque chose comme ça. Par contre, c'est vrai que... Ma vision des choses, en fait, c'est vrai que je suis assez visuel. C'est-à-dire que quand j'écris ce roman, en fait, moi, je me suis isolé pendant 5 mois pour écrire ce roman. Et pendant 5 mois, j'étais totalement autiste. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans cette histoire-là avec mes personnages. Et ce que j'écris, en fait, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que c'est quelque part ce que je vis par procuration avec ces personnages-là. Donc, quelque part, ma narration, elle est simplement guidée par une seule règle, c'est il faut que les gens qui vont lire le roman et qui ne me connaissent pas comprennent. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de simplicité d'écriture. Et il faut que les choses soient limpides. C'est-à-dire qu'il faut que... c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de digressions. C'est pour ça que les choses s'enchaînent naturellement, simplement parce qu'en fait, moi, je me mets dans la position d'un conteur, finalement. De quelqu'un qui aurait en face de lui des gens, et il faut qu'il raconte une histoire. Et bah, plutôt que de le raconter à l'oral, bah, je l'écris.
En pensant à la perception très visuelle que l'on a de votre écriture, je pensais par exemple à ce décor du bâtiment dans lequel les SS, les gardiens du camp, se trouvent et qui est un bâtiment tellement imposant que même quand les soldats allemands, les gardiens ont quitté le camp, les prisonniers, les ex-prisonniers ont peur du bâtiment pour ce qu'il représente. Et alors vous ajoutez dans l'exploration qu'il se décide à faire de ce bâtiment des images qui sont des images à la Malaparte, et comme ce gardien avec son fusil qui est à l'intérieur et qu'on a oublié, ce sont des images qui sont fulgurantes, ce sont des images de romanciers et de cinéastes.
C'est vrai que moi, mon univers, enfin oui, mon univers, même ma culture, je dirais, est beaucoup plus une culture de l'image et du son que de l'écriture. C'est vrai que... Moi, je sais que ce qui m'inspire beaucoup plus que la littérature, en fait, c'est effectivement les images, la photo, le cinéma et la musique. Et après, effectivement, quand je raconte des histoires, j'essaie de mettre le plus possible d'images fortes sur ce que je veux raconter. Mais ça, c'est moi. Je veux dire, on se refait pas, quoi.
Alors, racontez-nous quand même, parce que faites-nous un petit atelier d'écriture, parce que vous êtes cinéaste, vous avez une bibliographie, même si la quatrième de couverture dit que c'est votre premier roman de littérature générale, vous avez une bibliographie qui remplit toute une page avec des romans noirs, des polars, de l'humour, des romans collectifs, plus tous les films et téléfilms que vous réalisez. Alors, vous avez fait comment ces 5 mois de liberté? Comment se passait une journée de ces 5 mois pour écrire ce roman fantastique?
Ben, une journée d'écriture, en fait, c'est simplement l'aboutissement de 2 ans de réflexion. Parce qu'en fait, il y a effectivement 5 mois d'écriture à raison de, je sais pas, je devais écrire 4-5 heures par jour, parce que c'est épuisant d'écrire. Hein. Je veux dire, ça arrive à sortir d'un truc comme ça. Il y a un moment où on est fatigué, quoi, parce que j'étais tellement dedans que... Mais c'est aussi 2 ans de réflexion et 2 ans de gamberge par rapport à ces problèmes. Et c'est aussi, je dirais, quelque part, peut-être, 48 ans de réflexion sur la vie, quoi. Parce que, bon, je compte pas les 5 premières années, parce que j'étais un peu naïf au début, mais... Il y a ça aussi, je veux dire. Dans un roman comme ça, moi, ce qui m'a bien plu, c'est que l'écriture de ce roman m'a permis d'intégrer au récit, c'est 40 ans de réflexion sur la vie, quoi.
Alors, il y a aussi autre chose qui m'a frappé. Et vous l'avez évoqué un peu, c'est qu'en lisant le roman, je me suis à un moment donné posé la question, tiens, mais est-ce que Medved existe? Est-ce que le nom existe? Le nom n'existe pas. Par contre, j'ai découvert beaucoup de réalités historiques sur l'histoire de la Slovaquie. Mmh. Est-ce que lorsque vous êtes dit, tiens, je vais regarder une carte, je vois que la Slovaquie correspond à ce que je veux dire, vous n'avez pas aussi été surpris par le fait qu'il y ait une coïncidence entre la géographie que vous souhaitiez avoir et l'histoire qui s'y est passée?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est... Au niveau des détails, quand j'ai commencé à, j'ai trouvé ce lieu, donc j'ai exploré des photos, j'ai des banques de données, des choses comme ça, une carte, d'état-major, très précise. Et j'ai commencé donc à me dire, mon histoire pourrait se passer là. Donc j'ai commencé à écrire et je continue à me renseigner sur ce pays. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que j'imaginais des choses, je trouvais des renseignements qui confortaient ce que je racontais. Par exemple, quelque chose que j'ai découvert peut-être un mois après avoir imaginé qu'ils allaient fabriquer des cercueils pour l'armée allemande, c'est qu'en fait, tout le bois de la Slovaquie était dédié à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'accord entre Hitler, enfin entre les nazis. Et... C'est fou, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs fois comme ça, en cours d'écriture, où je me suis retrouvé être dans la réalité, une réalité que j'avais un peu imaginée, mais qui après tout n'est jamais qu'une question de logique. Je veux dire, un pays qui est couvert de forêts et qui est inféodé à l'Allemagne, ben forcément, le bois, il va partir en Allemagne. Je veux dire, après, il y a des trucs de logique, quoi.
Alors, on va encore poursuivre dans l'atelier d'écriture, si vous voulez bien. Vous avez écrit aussi un certain nombre de romans noirs et de polars. La technique d'écriture du roman noir et du polar, par exemple, tous ceux que vous avez publiés dans la collection Fleuve Noir, et celle de ce roman-ci, roman de littérature générale, à nouveau dit la quatrième de couverture, quelles sont les différences ou les points de similitude?
Le point de similitude, c'est peut-être qu'il y a un narrateur. Sauf que dans tous les romans noirs, mon narrateur me permet d'avoir un recul par rapport à l'histoire. Mais un vrai recul, et c'est là qu'il intervient l'humour. C'est-à-dire que, en général, le narrateur, c'est vraiment dans les romans noirs, c'est vraiment la personne qui fait que ses réactions par rapport à une situation tragique fait qu'on sourit ou on rit. Je suis même allé jusqu'au point de trouver un narrateur dans un roman qui s'appelle Le bal des cagoles, où le narrateur, en fait, c'est le fœtus. C'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire de la grossesse d'une gamine paumée des quartiers défavorisés de Marseille. C'est sa grossesse pendant 9 mois. Ça raconte au quotidien. Et en fait, c'est raconté par le fœtus. C'est-à-dire, c'est un récit parallèle entre ce que le fœtus ressent et comprend de l'intérieur et ce qui se passe effectivement à l'extérieur. Là, le narrateur, il me permet d'aller où je veux dans ce que je veux raconter. Et c'est l'élément un peu drôle. Sauf que, en fait, le bal des cagoles, si on regarde vraiment ce que ça raconte, c'est 30 fois pire qu'Enclave, quoi. C'est un désastre de société total, quoi. Mais l'humour fait que je peux arriver à raconter des choses comme ça. Dans Enclave, en fait, le fait de plus utiliser l'humour, le fait de plus avoir cette espèce de recul un peu salvateur, il fait que du coup, l'âge du narrateur, il est descendu, il est dans une démarche qui est beaucoup plus... pas infantile, mais plus au premier degré, quoi.
Une question qui peut être intrigante dans les temps que nous vivons, où on vit en même temps une tentation du révisionnisme sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps le romanesque d'une génération qui n'a pas connu cette époque-là surgit avec Les Bienveillantes, avec votre roman maintenant. En quoi, selon vous, est-ce que l'exploration par le roman permet d'aller plus loin que l'exploration strictement historique ?
Je pense que ce qui est intéressant dans le roman, mais ce qui est intéressant aussi dans le cinéma, c'est qu'on peut arriver à aborder les sujets de manière autre que scolaire. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du documentaire, par exemple, ou de l'essai historique, il y a un moment où, en fait, peut-être qu'on va perdre un certain nombre de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où le fait de passer par le biais d'une histoire fait que on va peut-être garder l'attention plus longtemps des gens qui vont lire le roman, ce qui fait que du coup on va pouvoir leur raconter des choses. Moi je sais que c'est exactement ce qui a poussé l'écriture de mon premier roman, par exemple. C'était pas un roman historique, mais quelque part, ça s'appelle 3 jours d'Angade, ça se passe à Marseille en 1992, puisque je l'ai écrit en 1992. Pour moi, en fait, le seul moyen à cette époque-là, alors que j'étais pas littéraire, j'avais pas de formation littéraire, je savais pas comment écrire un roman, je savais pas combien de mots il fallait pour écrire un roman, je savais rien. Pour moi, le moyen que j'avais trouvé dans ma tête pour raconter Marseille au quotidien, c'est-à-dire une ville qui est dans un désastre social total, dans une dérive économique, une dérive mafieuse, enfin, qui est vraiment une espèce de trou du cul du monde. Enfin, c'est un cauchemar total au quotidien. Le seul moyen que j'ai trouvé pour raconter de manière précise et de témoigner sur le quotidien quasiment documentaire de Marseille, c'était une fiction. C'est-à-dire que c'était une histoire, une espèce de polar. On suit un mec pendant 3 jours. Et toutes les anecdotes que je raconte dans ton journal, c'est en fait ces choses que j'ai vues en 20 ans. C'est-à-dire que tout ce qui fait, tout ce qui nourrit le roman, et donc tout ce qui fait en fait la réalité du roman, c'est quelque chose qui est de l'ordre du témoignage réel. Mais pour moi, la bonne manière pour arriver à ce que le lecteur arrive à aller jusqu'au bout de l'histoire et arrive à assimiler tout ce que j'avais envie de lui raconter en termes de témoignage, c'était une fiction.
Philippe Carrez, on va arrêter ici cet entretien. Je voudrais vous poser quand même une question sur l'avenir. Vous allez continuer à écrire des romans de littérature générale, ou est-ce que c'est un one shot?
Alors, c'est pas un one shot du tout. Là, moi, j'ai, pour tout vous dire, j'ai 4 ou 5 idées assez précises d'ailleurs de choses à écrire. Là, je suis en train de me poser la question parce qu'en fait, il y a 2 sujets en particulier qui me tiennent à cœur. Alors, quand j'aurai fini, bien sûr, de réaliser le film que je suis en train d'essayer de monter, parce qu'en fait, mes activités de réalisateur font que j'ai pas forcément non plus le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais cela dit, déjà, toute ma carrière et tout ce que je fais, en fait, correspond à des choses que j'ai vraiment envie de réaliser ou d'écrire. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je me plains pas. Mais c'est vrai que j'ai 2 idées de romans à venir. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'en fait, sur les 2 idées, il y en a une qui est finalement relativement liée à une actualité. En fait, c'est un roman sur la manipulation. C'est lié à une actualité assez brûlante de ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines. Et j'hésite en fait à l'écrire parce que c'est peut-être trop sur une actualité. C'est-à-dire que j'ai peur de me laisser dépasser ou le temps de l'écriture du livre d'être pas forcément dans la réalité. Juste pour vous donner une anecdote. Le 3e roman que j'ai écrit s'appelle Paix de mouche et la princesse du désert. C'était sorti chez Fleuve Noir il y a maintenant 15 ans. Et en fait, il s'est sorti dans une collection de romans noirs, mais ça aurait totalement pu sortir dans une collection de romans. Puisqu'en fait, ça raconte les 2 premiers jours de guerre civile à Marseille dans 20 ans. Donc c'était de la politique fiction. Et j'ai essayé d'imaginer comment des choses dégénérant, on se retrouvait en fait dans une espèce de société avec des gens qui maîtrisent plus rien et qui essaient de s'échapper d'une ville qui est cernée par l'armée. Bon, donc c'était vraiment pas du polar, quoi. Et j'ai écrit ce roman en 94, il est paru en 97, et en fait, quand j'ai relu les épreuves en 96 pour qu'il sorte en 97, il a fallu que je réanticipe un paquet de trucs du roman, parce qu'en fait, en 2 ans, j'avais déjà été rattrapé. Donc c'est pour ça que je suis maintenant un peu plus réticent à écrire des choses qui soient sur une actualité précise.
En tout cas, Philippe Carrez, votre premier roman, malgré toute cette bibliographie que vous avez derrière vous, ce premier roman, Enclave, est à placer parmi les grands romans, pas seulement de la rentrée, mais les grands romans tout court. Et je vous remercie vraiment et de cette interview et de ce livre magnifique.
Merci à vous.